Bienvenue sur le comptoir de l'IA du 2 juillet 2026 du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi le simple fait de repousser une entrée en bourse, ça pourrait coûter à une entreprise le droit de définir ce qu'est la valeur financière au 21e siècle.
Ouais, c'est un enjeu énorme.
Et c'est pas tout, parce qu'on va aussi voir pourquoi le gouvernement américain s'est transformé un peu du jour au lendemain en physionomiste de boîte de nuit ultra-select, pour contrôler qui a le droit d'utiliser certains algorithmes.
C'est carrément ça, oui.
Le document qu'on a épluché pour aujourd'hui, il montre une triple accélération qui est juste vertigineuse. C'est financier, réglementaire et géopolitique en même temps.
Exactement. Et l'objectif de notre décryptage aujourd'hui, c'est vraiment d'analyser ce basculement. On est passé d'une simple technologie un peu bluffante à une véritable infrastructure d'État. En fait, pour bien visualiser le truc, il faut arrêter de penser à de simples logiciels.
D'accord, donc on parle de quoi alors ?
Il faut voir ça comme la construction d'un système nerveux mondial. Et en ce moment même, t'as les banques, les gouvernements et les développeurs qui se battent pour prendre le contrôle du tronc cérébral, quoi. Les événements des derniers jours, ils ont l'air isolés comme ça, mais ils obéissent à une logique systémique hyper précise.
Ouais, et d'ailleurs, pour disséquer ce système nerveux, la première étape la plus logique, c'est de suivre les flux sanguins, donc l'argent.
Toujours sur l'argent, ouais.
C'est clair. Et les chiffres qui circulent cette semaine, franchement, ils donnent le vertige. Ça redessine tout le paysage boursier. Le 1er juin, Anthropic a déposé un dossier confidentiel, tu sais, le fameux formulaire S1, pour une intro sur le Nasdaq prévue dès octobre 2026.
C'est demain, octobre 2026.
C'est ça. Et la valorisation visée, accroche-toi, c'est 965 milliards de dollars.
Ah ouais, près du billion?
Et pour porter ça, ils ont monté un triumvirat bancaire massif, genre Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, que du lourd.
En même temps, cette valorisation de presque 1000 milliards, elle sort pas du chapeau, hein. Les documents internes montrent une machine à cash qui n'a plus rien à voir avec les startups traditionnelles qu'on connaît.
Ah bon? Qu'est-ce qui change concrètement?
En mai 2026, les revenus annualisés d'Anthropic, ils ont franchi la barre des 47 milliards de dollars.
Attends, 47 milliards?
Ouais. En gros, c'est une croissance de 96 millions de dollars par jour.
C'est hallucinant! 96 millions par jour!
C'est fou, hein? Et il faut bien comprendre d'où vient cet argent. C'est pas juste toi et moi qui payons notre petit abonnement de 20 balles par mois.
Ouais, c'est pas le grand public.
Exactement. C'est l'intégration en profondeur via les interfaces de programmation, les fameuses API, directement dans les infrastructures des multinationales. Et le clou du spectacle dans leur dossier, c'est la rentabilité.
Ils sont déjà rentables?
Et oui, il prévoit un premier bénéfice opérationnel dès le deuxième trimestre 2026. On parle de 559 millions de dollars de bénéfices pour environ 10,9 milliards de revenus sur le trimestre.
Ouais, donc c'est pas juste des promesses en l'air. Mais du coup, c'est là que le contraste devient hyper intéressant. Parce que leur grand rival, OpenAI, ils ont déposé leur dossier quelques jours plus tard, le 9 juin, mais avec une stratégie totalement opposée.
Ouais, eux, ils temporisent.
Voilà. Eux, ils envisagent de repousser leur introduction à 2027. Les fuites montrent que Sam Altman et Sarah Friar, la directrice financière, ils exigent une valorisation supérieure à 1000 milliards de dollars. Ils refusent la moindre décote.
C'est un vrai pari.
Et on sent qu'il y a une vraie guerre comptable en fond. Moi, ça me fait penser à la course spatiale. C'est comme si le premier labo a posé le pied sur la Lune, il obtenait le droit de rédiger les lois de la physique pour tous les autres qui viendront après.
C'est une super analogie parce que l'enjeu, c'est exactement ça. C'est ce que les banquiers appellent le coefficient de valorisation. En fait, le premier acteur géant qui entre en bourse, c'est lui qui va forcer Wall Street à utiliser ses propres métriques comme norme absolue pour tout le secteur.
D'accord. Donc en entrant en bourse dès octobre avec un modèle rentable, Anthropic impose ses règles du jeu.
Carrément. Ils disent au marché, jugez la valeur d'une IA sur sa capacité à générer du profit. Là, tout de suite.
Et du coup, c'est un piège redoutable pour OpenAI ? Parce que si OpenAI attend 2027 pour avoir ses 1000 milliards, ils vont devoir se plier à un cadre qu'ils n'ont même pas choisi.
C'est ça. Si la norme d'Anthropic, c'est un multiple strict basé sur la marge opérationnelle, une entreprise qui brûle encore des milliards en recherche fondamentale pour atteindre l'IA générale, elle va se faire massacrer par les marchés.
Donc la prudence d'OpenAI, en voulant attendre, ça pourrait se retourner violemment contre eux.
Tout à fait. Le marché, il déteste l'incertitude structurelle. En imposant tes règles comptables, tu t'assures que les capitaux iront vers toi en priorité. Mais tu vois, cette valorisation astronomique, ça pose un autre souci majeur.
Lequel ?
Quand quelques algorithmes pèsent plus lourd que le PIB de la moitié des pays du globe, on n'est plus du tout dans le simple libre-échange. On entre dans le domaine de la souveraineté d'État.
Ouais, et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe énorme. Parce que si ces modèles valent si cher et que le but, c'est de les distribuer au max pour faire du profit, pourquoi est-ce qu'on voit les gouvernements fermer les robinets d'un coup?
Ça, c'est le grand tournant.
Bah oui, nos sources montrent que le 28 juin, c'est une vraie rupture. On a la mise en place d'un régime d'accès géré directement par l'État américain. Le département du commerce a autorisé l'usage du modèle Mythos 5 d'Anthropic, mais uniquement, et c'est là que c'est fou, uniquement à une liste d'organisations de confiance.
Le fameux club VIP de la tech.
Grave. Et en parallèle, OpenAI a présenté son modèle GPT 5.6 Sol en avant-première, mais pareil, juste à des partenaires approuvés un par un par le gouvernement, sans aucun critère public, aucune procédure d'appel.
C'est parce que la nature même de ces modèles a changé. Les modèles d'avant-garde, qu'on appelle les modèles frontières, ils ont atteint un tel niveau de capacité que Washington les considère implicitement comme du matériel à double usage, civil et militaire.
Comme des armes, en gros.
Presque, ouais. L'État s'interpose dans la chaîne. Donc, techniquement, si une entreprise veut valider sa clé d'accès à l'API, bah, ça doit d'abord matcher avec une base de données de conformité gérée par les agences fédérales.
C'est flippant de se dire qu'ils ont ce pouvoir de coupure. Franchement, est-ce qu'on est vraiment face à une vraie mesure de sécurité nationale, ou est-ce que c'est pas plutôt un gros monopole commercial qu'on déguise avec le drapeau américain pour faire bien?
La question se pose.
Ben ouais, parce qu'en filtrant les accès comme ça, sans transparence, l'État crée un club ultra fermé qui protège les géants déjà en place. Ça tue dans l'œuf toute concurrence qui voudrait utiliser ces mêmes outils.
Ah ben c'est sûr que la frontière entre sécurité et protectionnisme industriel, elle est super poreuse. Et ce verrouillage, il a provoqué une panique dans le monde de l'entreprise.
J'imagine, ouais.
Du coup, pour éviter de se retrouver le bec dans l'eau, les grandes boîtes se tournent massivement vers les modèles à poids ouvert, ceux dont l'architecture interne est publique.
Pourquoi les poids ouverts spécifiquement?
C'est vital. Un modèle fermé comme Mythos 5, ça tourne sur des serveurs américains. Le gouvernement peut te couper l'accès en une milliseconde, alors qu'un modèle à poids ouvert, tu le télécharges, tu l'installes sur tes propres serveurs physiques, genre dans une banque française ou un hôpital à Berlin.
Hein, joie? C'est une vraie police d'assurance géopolitique, en fait.
Exactement.
Parce qu'un gouvernement étranger ne peut pas envoyer une ligne de code pour forcer l'extinction d'un modèle qui tourne hors de son réseau.
Impossible. Si est du mois de juin.
C'est clair, on a vu des transferts de chercheurs de très haut niveau, genre Noam Shazir, John Jumper ou Clive Chan. Les organigrammes sont complètement bouleversés.
Ouais, parce que l'industrie a pigé un truc crucial. L'avantage concurrentiel, il va plus seulement se faire par la force brute, genre empiler des milliers de serveurs pour avaler du texte.
Moi, ça me fait vraiment penser au mercato dans le foot de haut niveau, mais en pire. Tu sais, dans le foot, quand t'achètes le meilleur attaquant, c'est pour optimiser une équipe qui existe déjà. Mais là, quand des mecs comme Shazir ou Jumper changent de labo, on dirait qu'ils cherchent pas juste un joueur star. Ils cherchent le gars capable de réinventer les règles du jeu, de créer une nouvelle architecture qui va rendre tout le reste obsolète.
C'est tout à fait ça. On cherche la spécialisation. Et ça se voit directement dans les produits qu'ils sortent pour les entreprises. Anthropic lance son assistant Claude Code pour dominer le marché pro, pendant qu'OpenAI fait un pivot total vers les entreprises avec Codex et prépare ses versions pro et mini de GPT 5.6.
Ouais, mais la rumeur qui affole tout le monde en ce moment, c'est Claude Sonnet 5, nom de code Fennec.
Ah, le fameux Fennec!
Voilà, on entend dire qu'il serait capable de réussir entre 82 et 92% des tests de prog sur le SW Bench.
C'est des scores de malade!
Bah oui, parce que réussir à 90% ce test, c'est pas juste coder une petite fonction. Ça veut dire que l'IA clone un répertoire entier, trouve un bug ultra complexe au milieu d'un million de lignes de code, écrit le correctif, l'applique et valide les tests. Tout ça toute seule, sans un humain derrière.
Et c'est ça qui fait basculer l'industrie. On passe de la génération de texte à l'ingénierie logicielle autonome. Et ça, ça crée une boucle récursive.
C'est-à-dire ?
Bah, une IA qui sait coder parfaitement, elle peut optimiser sa propre infrastructure. Elle s'améliore toute seule. Mais face à cette course au modèle monolithique géant que mènent les Américains, bah, t'as d'autres acteurs qui tentent des trucs super malins pour contourner ça.
Comme Sakana AI au Japon avec leur système Fugu.
Exactement. Eux, ils font de l'orchestration.
Ouais, c'est une architecture qui n'a rien à voir. Au lieu de faire un seul cerveau géant qui coûte une blinde à entraîner, Fugu utilise un routeur intelligent.
C'est brillant, en fait. Quand tu poses une question complexe, le routeur de Fugu, il analyse le besoin. Si c'est des maths, il envoie ça discrètement à un petit modèle spécialisé en maths. Si c'est de la trad, il interroge un modèle léger de traduction.
Donc toi, t'as l'impression de parler à une IA toute puissante,
Mais derrière, c'est juste un chef d'orchestre qui gère des petits experts.
C'est ça, ça casse la dépendance à un seul gros fournisseur américain et ça réduit la facture énergétique de façon spectaculaire.
C'est une vraie stratégie d'esquive. Bon, on a vu les États-Unis qui verrouillent, le Japon qui esquive, mais et nous dans tout ça ? L'Europe et surtout la France ?
Ah, vaste sujet.
Nos sources montrent une situation française assez paradoxale. On a une adoption sur le terrain qui est ultra agressive et en même temps un cadre législatif qui s'annonce hyper punitif. Si on prend l'adoption d'abord, le ministère de la Justice déploie en ce moment même mon assistant justice pour des milliers d'agents.
Oui, et la justification du ministre Gérald Darmanin, elle est très révélatrice des limites de l'offre commerciale.
Qu'est-ce qu'il disait exactement ?
En gros, il expliquait que pour des données judiciaires sensibles, tu peux pas confier ça aux API des GAFAM qui sont soumis au droit américain. Donc il déploie un outil interne, sûrement basé sur des modèles à poids ouvert, sur des serveurs d'État. C'est la souveraineté et la confidentialité qui dictent le choix.
Et ça bouge pas que dans les ministères. Le 2 juillet, t'as Brest qui accueille la 7e édition des Journées de l'IA aux Ateliers des Capucins. Et là-bas, le thème, c'est l'agentique, les systèmes qui planifient et agissent en autonomie.
Les entreprises françaises foncent là-dedans.
Et les chiffres le prouvent, hein. Les données de Microsoft pour début 2026 montrent que 17,8% de la population active mondiale utilise ces outils. Mais la France, elle, elle est à 47,8%. On est les cinquièmes au monde.
Près d'un travailleur sur deux. Ça modifie la productivité du pays en profondeur. Mais c'est là qu'on arrive au paradoxe dont tu parlais. Ça va clasher avec l'Europe.
Ah bah, le fameux AI Act, la loi européenne sur l'IA, elle doit être adoptée formellement en juillet, avec une entrée en vigueur le 2 août. Et les sanctions pour ceux qui ne respectent pas les règles, ça peut aller jusqu'à 7% du chiffre d'affaires mondial.
C'est une épée de Damoclès monumentale.
Franchement, est-ce que c'est pas un suicide économique ? D'un côté, on se félicite d'avoir 48% d'utilisateurs qui modernisent notre économie, et de l'autre, on brandit une hache financière géante au-dessus des acteurs locaux. On a l'impression que l'Europe fabrique les meilleurs freins du monde pour une Ferrari qu'elle possède même pas, quoi.
C'est une critique qu'on entend beaucoup, oui, cette peur de la surréglementation. Mais faut regarder la stratégie géopolitique derrière. L'Europe essaie de transformer son marché, qui est énorme, en arme diplomatique.
Comment ça ?
Mais il y a une fracture tech mondiale. T'as les nations qui ont des supercalculateurs et les autres. L'UE, en imposant des règles strictes sur la transparence ou les données d'entraînement, elle essaie d'imposer ses normes légales aux développeurs américains. C'est sa façon de compenser son retard technologique.
Ouais, mais c'est un jeu d'équilibriste hyper casse-gueule, tu vois. Au moindre faux pas, l'Europe se déconnecte complètement de l'innovation. Si on résume un peu tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, le constat, il est quand même super brutal.
Le constat, c'est que la phase de transition est terminée. L'IA, c'est plus juste un petit gadget amusant pour générer des images. C'est l'infrastructure critique de la décennie.
Ouais, c'est le moteur de la bourse mondiale.
C'est l'urgence numéro un de la sécurité américaine. Et c'est la ligne de faille qui redessine toute la diplomatie en Europe et en Asie.
C'est fou, ce glissement d'une simple curiosité tech vers un enjeu de survie nationale. Et ça m'amène à une dernière réflexion pour clore ce sujet. Historiquement, la géopolitique s'est toujours jouée sur le contrôle des ressources rares et dangereuses. L'eau, le pétrole, l'uranium.
Tout à fait.
Aujourd'hui, on voit que les gouvernements gèrent l'accès aux API des IA avec la même paranoïa que l'enrichissement de l'uranium. Ça veut dire que la géographie des conflits, elle est en train de muter complètement.
La nature du pouvoir change.
Exactement. La prochaine guerre mondiale, elle se jouera peut-être pas sur des territoires géographiques à conquérir. Ça pourra juste se jouer sur le droit ou l'interdiction de se connecter à des fermes de serveurs de plusieurs gigawatts. Les frontières de demain, elles se tracent plus sur des cartes, en fait. Elles sont en train d'être codées aujourd'hui même, dans le silence des data centers. Retrouvez toute l'actualité sur l'intelligence artificielle sur notre site internet ia-info.fr ou notre application iPhone, iPad et prochainement Android autour de l'intelligence artificielle.